et on enregistre. Ça sera ensuite sur le site de la paroisse.
En commençant cet exposé sur Saint-Louis-Marie, peut-être nous pouvons essayer de faire un petit peu de géographie ecclésiastique. Parce que Saint-Louis, si on en parle évidemment, dans le cadre de ceux qui ont marqué le diocèse, grand personnage, en même temps, vous savez que le diocèse de Luçon de l'époque, de Saint-Louis-Marie, qui a vécu de 1673 à 1716, les limites du diocèse n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et donc, pour que vous situiez un peu, ça vous aidera un peu dans sa vie, c'est de penser que, bon, jusqu'en 1317, donc il y avait donc un seul diocèse, le diocèse de Poitiers, juste donc la Vienne, de Sèvres, Vendée, plus ou moins, quelque chose près actuel, jusqu'à l'île de Noirmoutier. Puis après, ça s'est divisé, donc c'est ce que nous fêtons cette année, en 1317, toujours dans le désordre. Et puis, donc, c'est devenu trois diocèses, en gros, diocèse de Poitiers, au centre, diocèse de Maizet, et à l'ouest, diocèse de Luçon. Puis plus tard encore, après les guerres de religion, Maizet ayant été pillé, donc le siège du diocèse a été transféré à La Rochelle. Et donc, finalement, il y avait à l'est le diocèse de Poitiers qui correspond plus ou moins à la Vienne d'aujourd'hui, une partie des Deux-Sèvres, dont la région de Parthenay, faisait partie du diocèse de Poitiers, je sais pas ce qu'il y a des parthenésiens. Et puis, à l'ouest, il y avait donc la Vendée. Et puis, au milieu, donc, ce diocèse de La Rochelle, mais fait un peu bizarre. C'est-à-dire, il avait la forme, pour vous donner une image, d'un sablier. Vous voyez ? Voilà. Ça partait de La Rochelle, remontant vers Maran, la ville de Fontenay-le-Comte, faisait partie du diocèse, jusqu'à la Châtaigneraie. Puis là, il y avait une paroisse qui faisait le lien entre le sud et le nord. Peut-être Saint-Pierre-du-Chemin, je ne sais pas exactement. Regardez ça. Après, dans le nord, ça remontait comme ça, en forme donc de triangle, en englobant Bressuire, jusqu'à Villiers, vous voyez, dans le nord, Mauléon, Pouzauges en faisait partie, mais Pouzauges n'en faisait pas partie, mais Les Épaisses en faisaient partie, par exemple. Vous voyez, là, c'est un peu subtil. Donc, ce qui explique que le père de Montfort, à la fin de sa vie, quand il prêche à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il est mort, c'était sa dernière mission, c'est dans le diocèse de La Rochelle. Voilà, tout ça pour essayer de situer. Et donc, il est fait des missions paroissiales à Fontenay-le-Comte, à Mervent, tous ces coins-là, c'était le diocèse de La Rochelle. En fait. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi, donc, dans l'exposé un peu bref de sa vie. Mais c'est important d'avoir une petite vision de cette géographie de son temps pour essayer de situer ça. Alors, en disant quelques mots de la vie du père de Montfort, nous allons en voir trois parties. La première, c'est de l'enfant au prêtre. Louis Grignon naît le 31 janvier 1673 à Montfort-la-Canne, qui s'appelle aujourd'hui Montfort-sur-Meu, près de Rennes. Baptisé le lendemain, il ajoutera plus tard Marie à son prénom et de Montfort à son nom en souvenir du lieu de son baptême. Et vous allez voir comment le baptême, la thématique du baptême, a une grande importance dans la vie du père de Montfort. Il était l'aîné d'une famille nombreuse, où il y avait juste 18 enfants, dont 3 seront prêtres et 2 religieuses. Ses parents, Jean-Baptiste et Jeanne Robert, sont de petits hobereaux, non pas riches, mais ayant quelques biens dont ils pourront faire bénéficier leurs enfants. Et d'ailleurs, le père de Montfort dit dans une belle lettre qu'il renonce à tous les biens de ce monde, une belle lettre à sa mère. Dans ce milieu chrétien austère, le petit Louis montre rapidement les signes d'une grande piété et d'un attrait pour la pauvreté. En 1675, son père prend possession d'une gentilhommière qui s'appelle le Bois Marqué à Iffendic, près de Montfort, et c'est là qu'il va passer son enfance, dont on ne sait pas grand-chose. En 1685, il a donc 12 ans, il entre au collège des jésuites de Rennes. Il s'y montre intelligent et studieux. Il y rencontre là une amitié qui va durer toute sa vie, une double amitié, Claude Poulard-Desplaces. Ça vous dit quelque chose, Claude Poulard-Desplaces? C'est le fondateur, en fait, des Spiritains. Il y a eu un premier fondateur et un deuxième. Ça, c'est le premier fondateur. Claude Poulard-Desplaces. Et puis, un certain Jean-Baptiste Blin, moins connu pour nous, mais qui sera plus tard chanoine du diocèse de Rouen. Mais il sera toujours son ami. Et surtout, Jean-Baptiste Blin, il est précieux pour nous parce que c'est le premier biographe de Saint-Louis-Marie. On raconte cette jolie histoire au collège d'un camarade collégien qui était pauvre, habillé en haillons et dont tout le monde se moquait. Louis prend l'initiative de récolter de l'argent auprès de ses camarades afin de lui acheter des vêtements corrects. Mais comme il n'avait pu acquérir que la moitié de la somme, il se rend chez le tailleur, lui explique l'affaire et puis lui dit « Eh bien, vous ajouterez le reste ». Il l'a fait. Vous voyez le culot de lui. On découvre donc par cette anecdote d'abord son souci des pauvres, qui n'ira que grandissant toute sa vie, et son audace pour provoquer la charité, tant envers Dieu qu'envers le prochain. Il poursuit sa scolarité jusqu'au cours de philosophie et décide d'entrer au séminaire. Et on l'envoie pour ça à Paris pour qu'il entre au célèbre séminaire de Saint-Sulpice. Donc en 1692, il a 19 ans, il part pour Paris. À pied, bien sûr. Il a marché à pied toute sa vie. Il a fait, on a calculé, à peu près 20 000 km à pied dans sa vie. On lui avait proposé un cheval pour la route. Il refuse et ce fut un principe constant, comme je vous l'ai dit, de se déplacer exclusivement à pied. À la sortie de Rennes, au pont de Senon, il rencontre un pauvre. Il lui donne sa bourse. Plus loin, il rencontre un deuxième pauvre. Il lui donne ses vêtements de rechange. Plus loin, il rencontre un troisième pauvre, il échange ses vêtements propres avec les haillons du pauvre. Il promet dès lors de toujours vivre dans une radicale pauvreté. Il arrive à Paris dans cet état, vous imaginez, donc en haillons, en clochard, et il entre dans une pension pour les écoliers pauvres. Il n'a même pas pu rentrer au séminaire tellement il s'était clochardisé, donc on n'a pas voulu de lui. Il rentre donc dans cette pension tenue par un bienfaiteur, un certain monsieur de la Barmondière. Et il gagne sa vie en veillant les morts. C'est une coutume à l'époque. On veillait les morts toute la nuit et puis on nous donnait un peu d'argent. C'est comme ça qu'il garde sa vie. Il était tout content parce qu'en même temps, ça lui permettait de prier. Et puis, il étudie la théologie en Sorbonne. En 1694, il intègre le séminaire Saint-Sulpice pour les pauvres, finalement, et suit les cours pour les plus avancés. Parce qu'il y avait deux séminaires Saint-Sulpice, un pour ceux qui avaient les moyens et un pour ceux qui étaient pauvres. Donc, au séminaire, on trouve bien son ascèse un peu trop zélée, un peu trop voyante, trop excessive. Alors il est mis à l'épreuve. Mais il ne défaille jamais quant à l'obéissance. Et donc ses supérieurs, voyons bien que cet être un peu singulier, un peu entier, en fait, reconnaissent que c'est un homme profondément de Dieu, parce que c'est un homme profondément obéissant. Les maîtres, ses maîtres, connaissent l'authenticité de sa vie intérieure, et au cours de ces années qui s'écoulent tranquillement, il rencontre pour la première fois, il fait la connaissance d'une certaine Madame de Montespan. Quelque chose, mais c'est pas la maîtresse de Louis XIV. Mais vous verrez que c'est important dans sa vie, parce qu'il va la rencontrer une deuxième fois. Et puis il effectue aussi un pèlerinage à Chartres durant l'été 1699, exprime évidemment déjà son amour pour la Vierge Marie. Le 5 juin 1700, il est ordonné prêtre. Il célèbre sa première messe dans la chapelle de la Vierge de Saint-Sulpice, si vous connaissez l'église Saint-Sulpice à Paris, la chapelle au fond. Et en fait, il était le sacristain de cette chapelle. Donc c'est pour ça qu'il avait voulu célébrer sa première messe sur cet autel. Et puis d'ailleurs, si vous allez à Saint-Sulpice, vous verrez qu'il y a une statue de lui, effectivement, dans la chapelle de Saint-Sulpice. On disait de lui qu'il était comme un ange à l'autel. Voilà donc notre petit Louis qui est devenu prêtre. Donc, si vous avez calculé, il a 27 ans. Deuxième partie, un peu de sa vie. Les premiers apostolats, qui prépare son œuvre de missionnaire, mais en même temps une période où il hésite, où il ne sait pas, il cherche sa voie. En septembre 1700, il est envoyé par son directeur spirituel à Nantes, dans une communauté de prêtres, où il doit vivre et il pensait qu'il allait pouvoir faire un peu de mission, parce qu'il portait ça dans son cœur. Mais l'inaction de cette communauté le déçoit. Il aspire donc à une vie plus missionnaire. Et à la fin du mois d'avril 1701, il part à l'abbaye de Fontevraud, vous connaissez aussi, pour la prise d'habit de sa sœur Sylvie. Il y rencontre de nouveau Madame de Montespan. Et en parlant avec elle, lui disant ses projets, lui disant comment il est déçu à Nantes de cette vie, donc dans cette communauté qui ne bouge pas beaucoup, elle dit « Écoutez, je connais l'évêque de Poitiers, allez donc le voir de ma part. » Et c'est comme ça que Louis part à Poitiers, où il arrive le 1er mai. Arrivé à Poitiers, il va directement à l'hôpital des mendiants et des pauvres. Vous savez, l'hôpital à l'époque, c'était le ramassis de tous les gens dont on ne savait pas quoi faire, les mendiants, les pauvres, les malades, les souffreteux, les... Enfin, voilà. Et puis, il va prier à la chapelle de l'hôpital. Et il reste là des heures et des heures et des heures. Alors les pauvres commencent à voir ça, s'attrouper. Il y a un homme quand même un peu curieux qui est en train de prier dans la chapelle tout en haillons. Il ne paye pas de mine, les sages, etc. Mais il est très très pieux. Et les pauvres sont touchés. Du coup, ils passent le mot, ils viennent voir. Ils sont tellement touchés par cet homme qu'il dit « Il faut qu'on fasse la quête pour lui parce que vraiment c'est un pauvre gars qui n'a rien à se mettre dans la poche. » Et donc, ils font la quête pour les pauvres, pour le père de Montfort. Et puis, finalement, en lui donnant la quête, ils s'aperçoivent en parlant avec lui qu'il est prêtre. Alors, ils disent « Ah, mais nous, on n'a pas d'aumônier. Vous ne voudriez pas être notre aumônier ?» Alors, le Saint-Louis, le futur Saint-Louis-Marie, dit « Ben oui, mais il faut demander la permission de l'évêque, bien évidemment. » Voilà ce qu'il dit dans une lettre à son directeur spirituel de Paris, Monsieur Léchassier, à propos de cet épisode. « Je m'avisais pourtant d'aller à l'hôpital pour servir les pauvres corporellement si je ne pouvais pas spirituellement. J'entrais pour prier Dieu dans leur petite église où 4 heures environ que je passais en attendant le souper me parurent bien courtes. Elles parurent cependant bien longues à quelques pauvres qui, m'ayant vu à genoux et avec des habits si conformes aux leurs, allèrent le dire aux autres et s'entrexcitèrent les uns les autres à boursiller pour me faire l'aumône. » Les uns donnèrent plus, les autres moins, les plus pauvres un denier, les plus riches un sol. Tout cela passait sans que je le susse. Je bénis Dieu 1000 fois de passer pour un pauvre et d'emporter les glorieuses livrées, et je remercie mes chers frères et sœurs de leur bonne volonté. » C'est ainsi qu'il va commencer donc à faire le catéchisme aux pauvres et à des écoliers, dont un certain Alexis Trichet, qui parle de ce prêtre à sa sœur. Monseigneur Girard, l'évêque de Poitiers, hésite à lui confier l'hôpital, donc où Montfort doit repartir pour Nantes. Et bientôt, en août, une lettre de Monseigneur Girard l'invite, qui est l'évêque de Poitiers, donc, à revenir sur Poitiers, car les pauvres le réclament. L'évêque a cédé à la pression de ceux dont Louis-Marie avait déjà conquis l'âme. Dès lors, tout de suite, il va fonder dans l'hôpital un premier noyau de communauté religieuse avec 12 pauvres femmes, qu'il va appeler les filles de la sagesse. Un jour qu'il confessait dans l'église Saint-Porchaire, dans le centre de Poitiers, entre au confessionnal une jeune fille, une certaine Louise Trichet, qui avait entendu parler de lui par son frère, et qui lui dit « C'est ma sœur, mon père, qui m'envoie. Non, ma fille, lui dit-il, c'est la Sainte Vierge. » Et ainsi, il recruta Marie-Louise, celle qui va devenir Marie-Louise Trichet, qui sera la cofondatrice des Filles de la Sagesse et leur première supérieure. Mais la bourgeoisie de Poitiers ne voyait pas toujours d'un œil favorable ce prêtre aux curieuses manières et si radicales. Et il est vrai qu'il ne se gênait pas pour dénoncer la mondanité et les manières du siècle peu évangélique. La jeune fille se vit dire par sa famille « Tu deviendras folle comme lui !» Le 2 février 1703, il lui remet l'habit gris des femmes du commun. Son sens pratique lui fait améliorer l'organisation de l'hôpital, mieux soigner les pauvres et les malades, et même faire des économies. Malgré cela, la direction ne supporte pas ses manières et les changements qu'il introduit, il est renvoyé. Vers Pâques 1703, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers Paris parce que c'est là qu'il a son directeur spirituel qui datait du séminaire pour lui demander conseil. Et arrivé à Paris, il se dirige spontanément vers l'hôpital de la Salpêtrière pour y aider les 4000 pauvres qui s'y trouvent. Après 4 mois de service, comme il l'avait fait à Poitiers, il découvre sous son assiette un billet qui le renvoie. Marginalisé, moqué, même calomnié par ses confrères, il prend refuge sous un escalier, dans un réduit d'une pauvre demeure de la rue du Pot-de-Fer, qui n'existe plus. Et c'est un temps de crise difficile pour lui. Durant l'été et l'automne, c'est là qu'il réside et compose le traité de l'amour de la sagesse éternelle. Et fin 1703, les ermites du Mont Valérien, dont la communauté était divisée, l'appellent à venir avec eux, vivre avec eux. Très édifié par sa prière, son ascèse et sa vie intérieure, il se réconcilie. En mars 1704, une pétition de 400 pauvres de l'hôpital de Poitiers est envoyée à l'évêque pour que revienne celui qui aime tant les pauvres, comme ils disent. Et donc, on l'invite à reprendre son apostolat à Poitiers. Monseigneur de la Poitre a remplacé entre-temps Monseigneur Girard sur le siège de Saint-Hilaire et n'a pas de prévention contre le père de Montfort. Le désordre de l'hôpital, après son action tonique suspendue, ne trouve pas de solution. En arrivant, il a établi un règlement et se remet à l'ouvrage sans compter son temps ni sa santé. Mais après un an, de nouveau, il est renvoyé. Et pauvre. L'évêque accepte qu'il mène des missions dans les faubourgs de la ville et c'est là qu'il va faire sa première mission, ceux qui connaissent Poitiers, dans le quartier de Montbernage. Mais son zèle, trop voyant et dérangeant, lui attire des ennemis. On raille son obsession à établir de nouveaux lieux de culte, comme dans la grange de Montbernage qu'il transforme en chapelle, petit sanctuaire qu'on peut aller visiter à Poitiers, qui existe encore, Marie Reine des Cœurs. Ou à restaurer, je vous le disais la semaine dernière, le baptistère du IVe siècle. Il dénonce les mauvaises mœurs. Il veut même faire un bûcher pour y jeter tous les livres licencieux et blasphématoires. Oui, il y a le sens de la mise en scène, etc. Mais dénoncer, le grand vicaire, c'est le vicaire général de l'époque, vient sur place et empêche l'auto-da-fé. On s'en plaint à l'évêque. L'évêque est absent à ce moment-là, mais dès qu'il revient, il chasse le père de Montfort et lui interdit tout apostolat dans le diocèse. En ce début de l'an 1706, donc, il doit quitter immédiatement le diocèse et il ne sait plus trop quoi faire. Alors, ne voyant plus quelle est sa mission, il décide de partir en pèlerinage à Rome. Et puis, comme vous le savez, la route directe pour aller à Rome, c'est Lorette. Donc, il passe par Lorette. Voilà, ça fait un gros détour, hein. Donc, il va à Rome. Le 20 mai, il est à Rome. Il obtient une audience avec le pape Clément XI. Il commence à parler en latin au pape. Et le pape lui dit en bon père, vous pouvez continuer en français. Louis-Marie expose son désir d'aller évangéliser dans les missions d'Orient. Et le Saint-Père lui répond, vous avez, monsieur, un assez grand champ en France pour exercer votre zèle. N'allez point ailleurs. Et travaillez toujours avec une parfaite soumission aux évêques dans les diocèses auxquels vous serez appelés. Dieu, par ce moyen, en donnera bénédiction à vos travaux. Le pape Clément XI le fait missionnaire apostolique en France, avec le titre. Et il bénit, il lui donne un crucifix, et qu'il bénit, qu'il lui indulgencie, qu'il va avoir et qu'il va garder jusqu'à sa mort. Le père de Montfort a finalement trouvé sa voie. Il a 33 ans, et ce sera celle qu'il suivra jusqu'à épuisement, jusqu'à sa mort. Et nous arrivons donc à la troisième partie de sa vie, donc toute sa vie de missionnaire itinérant, qui va donc de 1706 à 1716. Il revient donc en France, mais où aller? À Poitiers, il passe à Poitiers pour revoir sa protégée, Louise Trichet, sœur Marie-Louise, maintenant, voir quelques personnes, mais il n'a pas le droit d'exercer d'apostolat. Il est persona non grata, donc il fait retraite en dehors de la ville. Et puis, il part en pèlerinage au Mont Saint-Michel, passe par Notre-Dame des Ardiliers, pour laquelle il aura toujours une grande dévotion. Et en octobre, il séjourne à Rennes, où il avait encore des connaissances. Il visite son village natal et sa famille. Et finalement, fin 1706, il prêche une première mission depuis qu'il a ce mandat pontifical à Dinan. C'est à cette occasion que, prenant sur ses épaules un pauvre gueux, il y a cette passage célèbre de sa vie, il frappe à son logement en criant « Ouvrez à Jésus-Christ ! Ouvrez à Jésus-Christ !» À Rennes, il a retrouvé un vieux père jésuite qu'il avait connu comme collégien. Celui-ci l'envoie à Saint-Brieuc pour rencontrer le chanoine Leduguerre qui organise des missions dans les diocèses de Saint-Brieuc et de Saint-Malo. Il coopère donc avec cette équipe de missionnaires durant le printemps et l'été 1707. En juillet même, il prêche dans son village natal. Puis il séjourne dans un héritage appelé Saint-Lazare, près de Montfort. Et puis finalement, comme ses manières sont un peu radicales, et puis vous savez, les saints ne sont pas toujours faciles à vivre, il faut dire ce qui est. Et puis, comme ils font de l'ombre un peu aux autres, parce qu'ils ont tellement de lumière que, évidemment, ça crée toujours des jalousies et des choses compliquées. Donc finalement, il était conduit par Monsieur de Leduguerre, et puis pas très bien vu par l'évêque de Saint-Malo. Son zèle donc crée des jalousies ou de la méfiance. Le grand vicaire de Nantes, vicaire général de Nantes, le fait mander pour l'aider à diverses missions paroissiales. C'est ainsi qu'il prêche à Nantes, à Valette, puis en d'autres paroisses du pays nantais pendant toute l'année 1708. Mais les calomnies le poursuivent. Il les accepte avec humilité, sans se défendre. Au printemps de 1709, s'ouvre la mission de Pontchâteau. Dans l'été commencent les énormes travaux pour construire le calvaire qui existe toujours. Pendant des mois, des centaines d'ouvriers se pressent pour élever une énorme butte et aménager les lieux afin qu'y trônent trois grandes croix propres à frapper les esprits. Et vous savez, le père de Montfort, il avait le sens de la mise en scène. Il y a toujours trois croix de trois couleurs. La croix de Jésus était en rouge, la croix du mauvais larron en noir, la croix du bon larron en vert. Et il disait « Regarde le calvaire, regarde les croix, choisis la manière dont tu veux souffrir et mourir pour le Seigneur. Soit en damné, soit en saint, soit en homme qui espère la miséricorde de Dieu. » Donc, il construit ce grand calvaire. Pendant ce temps, puisque les travaux durent un an, tout en revenant régulièrement sur place, encourager les ouvriers, donner ses directives, il continue de prêcher des missions et des retraites dans la région. En août 1710, les travaux se terminent. Le magnifique calvaire est prêt pour l'inauguration, prévue en la fête de la Sainte Croix, le 14 septembre. Le 13 septembre, il reçoit l'interdiction de bénir le calvaire. Des détracteurs ont fait courir le bruit que ce calvaire pourrait devenir un camp retranché pour des mutins, voire des Anglais. L'État se sent donc menacé, s'est remonté jusqu'à la cour. La cour a fait revenir ça à l'évêque de Nantes, et l'évêque de Nantes, donc, un peu coincé, donc interdit donc l'inauguration du calvaire. Louis-Marie part immédiatement à pied vers Nantes pour rencontrer l'évêque et s'expliquer. Imaginez la distance, Pontchâteau-Nantes fait ça la nuit. Il arrive au petit matin à Nantes, il obtient une audience de Monseigneur et se voit confirmer la décision à laquelle l'évêque ajoute l'ordre de démolir le calvaire. C'est la consternation. Il revient et dira « On n'a pas voulu que nous plantions la croix du Seigneur, nous la plantons dans notre cœur. » Les pères jésuites chez qui Montfort fait retraite sont stupéfaits de son abandon et de son humilité. Monseigneur de Beauvau, l'évêque de Nantes, témoigna plus tard à son grand vicaire, M. Barin, fervent défenseur du père de Montfort. Voilà ce que disait le Monseigneur Beauvau. « J'ai été charmé de la façon dont M. Grignon a reçu les ordres du roi. Il faut qu'il soit un grand saint ou un hypocrite fieffé. » C'était la première hypothèse qui était la bonne, que l'Église a ratifiée. Dans une autre occasion, Saint Louis-Marie donc, s'était exclamé, alors que toute la mission se déroulait sans accroc, qu'il n'y avait pas de problème, il disait « Pas de croix, quelle croix !» Il reprend ses missions, mais de nouveau, il est interdit de ministère, cette fois dans le diocèse de Nantes. Ça devient compliqué. Au cours de ses missions, il avait connu des gens du pays de Ré. Oui. Et donc, certaines personnes lui demandent de venir faire des missions donc dans cette région qui correspond maintenant à la Garnache, Salertaine, voilà, toute cette région, voilà, du côté Vendée du nord-ouest. C'est donc ce qu'il va faire, et puis donc il veut que les choses aussi soient officielles, il entreprend donc d'aller rencontrer Monseigneur de Lescure, qui était l'évêque de Luçon. Il part pour la ville épiscopale, où il ne manque pas de prêcher au séminaire, chez les Capucins, et enfin à la cathédrale. Après une entrevue avec l'évêque, qui s'est bien passé, il part le 11 mai pour La Rochelle. Il sait que l'évêque lui sera favorable à La Rochelle, tout comme son homologue de Luçon. L'évêque de La Rochelle, Monseigneur de Chanflour, est un ancien élève de Saint-Sulpice à Paris, et ça crée des liens. Il a le souci de l'évangélisation de son troupeau, Monseigneur de Chanflour. Il aime la Vierge Marie, est un adversaire résolu du jansénisme, tout comme le père de Montfort. C'était un anti-janséniste, j'allais dire primaire, père de Montfort. Louis-Marie donc s'établit à La Rochelle, et puis à la demande de l'évêque, commence des missions. Tout de suite une mission générale à La Rochelle même, et puis dans les environs. Et vous savez, tout le passé protestant de La Rochelle, donc toute la difficulté aussi que ça pouvait induire. Tout le reste de l'année, il sillonne le diocèse. Durant le carême de 1712, il prêche même à l'île Dieu. Toute une histoire sur la traversée avec des pirates, etc. Mais je ne peux pas tout vous raconter sinon. Puis il passe l'été de nouveau à prêcher dans la région de la Garnache et de Salertaine. De retour à La Rochelle pendant l'été, il continue son apostolat. Et c'est l'époque où il rédige le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge dans une pauvre maison qu'on lui a donnée dans le quartier de Saint-Éloi. Et il fait de cette maison son ermitage. La ville calviniste ne lui est évidemment pas acquise, vous imaginez bien. Il y fonde des confréries du rosaire. Il mène des processions de la Bible. Intéressant ça. Pour toucher les protestants. Il faisait parfois des processions du Saint-Sacrement, bien sûr. Mais là, il fait aussi des processions de la Bible à La Rochelle. Il reprend les fêtards et les libertins. Bon, il s'attire pas mal d'inimitié, parce que le père de Montfort, il est un peu entier, puis il ne va pas avec le dos de la cuillère. Et du coup, on tente de l'empoisonner. Ça a presque failli marcher, mais il s'en est aperçu à temps. Il a avalé en hâte des remèdes qui lui ont sauvé la vie, mais sa santé en restera durablement affectée. D'autant plus qu'il s'épuise à la tâche par des veilles incessantes, des jeûnes rigoureux, une ascèse de tout instant. Après de difficiles missions dans les paroisses de bord de mer vers La Rochelle, il remonte dans les terres dans la région de Bressuire. Donc je vous rappelle, c'est toujours le diocèse de La Rochelle. Donc jusqu'au printemps 1713, il est à la Séguinière près de Cholet, il y tombe malade, il sent ses forces défaillir, bien qu'il n'ait que 40 ans. Aussi en mai, il part pour Paris, désirant trouver des collaborateurs auprès de son ami de collège, vous vous souvenez, Claude Poulard-Desplaces. Et même ils font un accord, une alliance, et au début il voulait appeler les missionnaires qu'il aurait fondés lui-même, les missionnaires du Saint-Esprit, comme la congrégation de Claude Poulard-Desplaces. Entre-temps, il doit dissuader Marie-Louise, qui est toujours à l'hôpital de Poitiers, depuis tout ce temps, de quitter les malades pour entrer dans une autre communauté, dans un couvent. Il est sur tous les fronts, toujours contredit et rudoyé. Il dit « Je suis comme une balle dans un jeu de paume ». En août, il signe finalement donc ce traité d'alliance avec le séminaire de Paris, mais qui restera sans suite. Seuls deux ou trois compagnons de son vivant se joindront à lui pour former la Compagnie de Marie, mais elle ne prendra véritablement forme qu'après sa mort. En septembre, il repasse à Poitiers pour confirmer la vocation de Catherine Brunet, deuxième sœur qui va entrer, donc chez les filles de la sagesse. Il y guérit une dame et reçoit l'ordre de quitter la ville dans la journée. De retour à La Rochelle, il tombe gravement malade et se fait soigner tout l'automne chez les Frères de la Charité. Il reprend ses missions dans l'hiver et déborde sur le diocèse de Saintes. Il entreprend un long voyage à la fin de 1714 qui le conduit à Nantes, puis à Rennes, pour une retraite chez les Jésuites où il rédige probablement, si vous la connaissez, sa lettre circulaire aux Amis de la Croix. Voilà, un peu rude, une très belle lettre. Il pousse vers Avranches, Saint-Lô pour une mission, et après celle-ci, il va à Rouen pour retrouver son ami Jean-Baptiste Blin. Vous vous souvenez, vous en avez parlé, devenu chanoine du diocèse. Jean-Baptiste veut le raisonner sur son ascèse trop radicale. Il le voit arriver, il est un peu effrayé. Et Blin raconte, et ça dit bien l'esprit du père de Montfort. Pour réponse, il me montra son Nouveau Testament et me demanda si je trouvais à redire ce que Jésus-Christ avait pratiqué et enseigné, et si j'avais à lui montrer une vie plus semblable à la sienne et à celle des apôtres qu'une vie pauvre, mortifiée et fondée sur l'abandon de la Providence, qui n'avait point d'autre vue que de la suivre et d'autre dessein que d'y persévérer. Que pouvez-vous dire contre, ajouta-t-il. Fais-je mal? Ceux qui ne veulent pas me suivre vont par une autre voie, moins laborieuse et moins épineuse, et je l'approuve. Louis-Marie, vous voyez, veut vivre l'Évangile selon sa voie missionnaire, dans sa radicalité, mais en même temps, on voit que ce n'est pas un homme exclusif, il respecte les autres chemins. Il est radical, mais il n'est pas exclusif. En novembre, il est de nouveau à La Rochelle. Il veut faire venir ses sœurs de Poitiers, mais il faudra attendre 1715. Il se remet à son travail missionnaire à l'île d'Aix, Fouras et autres paroisses du littoral. Le 2 février 1715, il apparaît comme transfiguré, dit-on, dans la chair de l'église des Jacobins de La Rochelle. Il rencontre ce même mois Adrien Vatel, qui sera sa première recrue pour sa compagnie de missionnaires. Il continue ses missions. Fin mars, Marie-Louise Trichet et Catherine Brunet arrivent à La Rochelle. Il nomme Marie-Louise supérieure. En mai et juin a lieu une mission à Mervan. Dans la forêt, il découvre une grotte qui lui sert d'ermitage où il aimera séjourner à plusieurs reprises. En août, il commence la mission de Fontenelle-Comte, puis se repose en septembre et octobre dans sa grotte. En décembre, à la demande de René Mulot, convalescent dans sa famille, il vient à Saint-Pompin pour une mission. René Mulot, c'était un prêtre qu'il avait connu et qui était donc convalescent dans sa famille à Saint-Pompin. Et ce sera le début de la collaboration avec celui qui deviendra le premier supérieur de la compagnie de Marie. C'est pour ça qu'on va les appeler les Mulotins au début. Son père meurt le 12 janvier 1716, le père de Montfort. Et lui-même n'a plus que 3 mois à vivre. En février, il est toujours dans cette même région pour une mission à Villiers-en-Plaine, côté des Deux-Sèvres maintenant. Puis il séjourne en mars au presbytère de Saint-Pompin, d'où il part en pèlerinage à Notre-Dame des Ardiliers près d'Angers pour demander des vocations missionnaires. Le 1er avril, le voici à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le 5 s'ouvre la mission. Mais là, il tombe gravement malade et la fièvre le gagne de plus en plus. Avec ce qu'on sait, on pense qu'il a eu probablement une pleurésie. Donc à l'époque, ça ne se soignait pas. Il veut pourtant poursuivre la mission. Le 22 avril est prévue une grande prédication à l'église. On veut le dissuader d'y aller, il est épuisé. Dans un effort surhumain, il prêche pour la dernière fois devant Monseigneur de Chanfleur, l'évêque de La Rochelle, son protecteur, qui avait tenu à passer pendant la mission. Il doit s'aliter ensuite, il reçoit les sacrements. Il se fait attacher de petites chaînes de fer aux pieds, aux cou et aux bras, voulant mourir comme il avait vécu, esclave de Jésus, vivant en Marie. Il bénit les gens venus le voir. Tout à coup, il semble s'éteindre. Puis dans un sursaut, il s'écrie « C'est en vain que tu m'attaques. Je suis entre Jésus et Marie. Deo gratia cette mariée. Je suis au bout de ma carrière. C'en est fait. » « Je ne pécherai plus. » Et il expire instantanément. C'est le 28 avril 1716. Il est environ 20 heures. Il avait 43 ans. Consumé par le feu de l'amour de Dieu et du prochain, le père de Montfort avait été controversé et adulé à la fois. Il n'avait pas ménagé sa peine en procession, sanctuaire restauré, édification de calvaire, institution de confrérie de pénitents, renouvellement des vœux du baptême, composition de cantiques, etc. Tout devait servir à la venue du règne du Seigneur dans les âmes. Un jour qu'il était attendu à prêcher par une foule nombreuse et curieuse, il monte en chair. S'adressant à l'auditoire, il demande « Qu'êtes-vous venu voir ?» un grand prédicateur ou Jésus-Christ? Se mettant à genoux devant son crucifix, il se tait et adore en silence, longuement. Puis il descend de chair et passe dans l'assemblée, dans les rangs, faire embrasser son crucifix. Mais il perd de mon fort. C'est Jésus seul qui n'a eu de cesse de transmettre, et comme Jean-Baptiste, il aurait pu dire, « Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Il est béatifié le 22 janvier 1888 par Léon XIII. On peut gager que la redécouverte de son manuscrit du traité de la vraie dévotion à la Vierge, à la Sainte Vierge, qui a été redécouvert dans une malle du grenier de la maison mère de Père Montfortin de Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1842. Et il avait prédit, de mémoire, je pense au numéro 114, dans le traité, que le traité serait déchiré, effectivement on sait qu'il manque une partie du traité, et qu'il serait caché dans un coffre, avant qu'on le découvre. Il l'a prophétisé dans le manuscrit. Et de fait, on l'a retrouvé qu'en 1842, dès 1843, il y a une édition, et après ça va flamber. Il y aura des éditions nombreuses en français, mais aussi dans le monde entier, et c'est comme ça que le Père de Montfort a été connu. C'est sûrement aidé beaucoup pour sa béatification, on peut l'imaginer. Et puis il fut canonisé assez récemment, au fond, le 20 juillet 1947 par Pie XII. Voilà un peu sur sa vie. Je ne peux pas reprendre tous les éléments, ce serait trop fastidieux, puis surtout j'ai pas le temps, je vous ferai disputer à M. le curé, donc de sa doctrine. Mais peut-être je voudrais mettre le doigt sur un point particulier qui me semble absolument central et fondamental chez le Père de Montfort, mais qu'on n'aime pas trop, parce que, vous allez voir pourquoi, parce que ça nous met un peu mal à l'aise dans l'expression. C'est la question du Saint-Esclavage. Mais pourtant, c'est, à mon avis, le point fondamental et central. Ce qu'il exprime, le Père de Montfort, à travers ça, je vais vous expliquer un peu plus, c'est en fait ce qu'on dit d'autres auteurs depuis les origines, en d'autres termes, l'union de volonté, dont parlent les carmélitains, tous les gens du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, lisez le Père Marie-Eugène, etc., ne dit pas autre chose en réalité. Cette union de volonté, s'abandonner totalement à ce que Dieu veut et dire dans notre Père avec vérité que ta volonté soit faite. Et vouloir s'unir à cette volonté de Dieu, en fait c'est l'objet exactement de ce que le Père de Montfort appelle le Saint-Esclavage avec cette expression. Mais l'idée fondamentale du Père de Montfort, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait dans ses missions? Il arrivait, il prêchait, il enseignait les gens, etc. Et le but, à la fin de la mission, c'était quoi? De réunir tous les gens, faire une grande cérémonie très officielle, très belle, où il procédait à un renouvellement solennel des promesses du baptême. C'est de là que vient notre communion, la profession de foi, hein, la communion solennelle. Ça perdurait. Mais ce n'était pas réservé aux enfants. C'était pour tout le monde, parce qu'il s'était aperçu que les gens étaient baptisés, mais en fait, ils connaissaient plus ou moins le Seigneur, vivaient plus ou moins de leur foi, priaient plus ou moins. Et donc, il fallait renouveler donc, cette consécration baptismale et la faire comprendre pour que les fidèles rentrent mieux dans l'esprit de leur baptême et puissent en vivre véritablement. Ça, c'est le but du Père de Montfort. Et pour ce faire, donc, il les enseigne. Et notamment, il demande de renoncer à une forme de sagesse mondaine, comme il dit, qui s'oppose à la vraie sagesse qui est le Christ, venu parmi nous. Alors il dit par exemple, dans l'amour de la sagesse éternelle, on connaît mieux le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, le secret de Marie, mais en fait son écrit le plus important à mon avis, c'est l'amour de la sagesse éternelle, qui est un très beau commentaire du livre de la sagesse de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il dit dans l'amour de la sagesse éternelle. Cette sagesse du monde est une conformité parfaite aux maximes et aux modes du monde. C'est une tendance continuelle vers la grandeur et l'estime. C'est une recherche continuelle et secrète de son plaisir et de son intérêt, non pas d'une manière grossière et criante, non, en commettant quelques péchés scandaleux, mais d'une manière fine, trompeuse et politique. Autrement, ce ne serait plus, selon le monde, une sagesse, mais un libertinage. Bien analysé, non? Et alors, il même dit, il donne les dix commandements du mondain. Ça, c'est assez amusant, les dix commandements du mondain. Alors, avec les termes en poulet de l'époque, hein, il faut faire le... Voilà, mais c'est amusant. Voilà les dix commandements du mondain. Tu sauras bien le monde, tu vivras en honnête homme, tu feras bien tes affaires, tu conserveras ce qui t'appartient, tu sortiras de la poussière, tu te feras des amis, tu hanteras le beau monde, comme c'est bien dit. Tu feras bonne chère, tu n'engendreras point de mélancolie, et tu éviteras la singularité, la rusticité et la bigoterie. Bon, la bigoterie n'est pas forcément le sens qu'il y a aujourd'hui, hein, négatif. Enfin, voyez, l'idée, donc, c'est évidemment ironique, vous avez bien compris. Mais parce qu'il voulait dénoncer, mais ce qu'il a toujours fait, cet esprit du monde, qui est un esprit subtil, fin, c'est-à-dire qu'on peut s'arranger avec le monde et avec les valeurs du monde, mais finalement, en mettant de côté les valeurs de l'Évangile. Quel est notre critère? Est-ce que c'est vraiment le Christ? Est-ce que c'est l'Évangile? Ou est-ce que c'est ce que le monde nous dit? C'est ça, en fait, qu'il y a derrière, bon, avec le style de l'époque. Donc, l'idée, c'est de se consacrer vraiment, de renouveler ce don de soi à Jésus. Il dit, je dis que nous devons être à Jésus-Christ et le servir non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux. Je vous y répète qu'il n'a rien d'un janséniste, alors pas du tout. Comme des esclaves amoureux, qui par un effet d'un grand amour se donnent et se livrent à le servir en qualité d'esclave pour l'honneur seul de lui appartenir. Avant le baptême, nous étions esclaves du diable. Le baptême nous a rendus esclaves de Jésus-Christ. Ou il faut que les chrétiens soient esclaves du diable, ou esclaves de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Lisez le psaume 1 et vous comprendrez. En fait, rien de neuf sous le soleil. Alors, revenons quand même un peu à cette idée du Saint-Esclavage, puisque ce n'est pas quand même aussi simple que ça. Mais c'est une idée ancienne, et je m'étends un peu là-dessus, parce que ça me paraît important. En premier lieu, le père de Montfort, il n'invente pas le concept. Il suffit de le prendre dans l'Écriture sainte. La Sainte Vierge elle-même, dans sa réponse à l'ange Gabriel, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je suis la servante du Seigneur, non? Mais vous savez, le mot, il est édulcoré. Vous savez ce que c'est le mot en grec? C'est « doulet ». Doulet, cherchez dans tous les dictionnaires de grec, vous verrez que doulet, c'est pas la servante, c'est l'esclave. C'est clair, net et précis. D'ailleurs, il y a d'autres mots de la langue grecque pour dire serviteur qui apparaissent dans le Nouveau Testament. Par exemple, diakonos, vous connaissez ce mot qui nous a donné nos diacres, qui est serviteur. Donc, oiketes, c'est un autre mot qui est le serviteur au sens du domestique, de maison. Ainsi, la Vierge Marie répond à l'ange dans la soumission totale d'elle-même à la volonté divine, dans l'abandon de toute sa vie à son Dieu, malgré les incompréhensions toutes humaines, des tenants et aboutissants de cette situation mystérieuse et dangereuse, parce qu'elle risque sa vie, la Sainte Vierge, en disant oui, peut-être lapidée pour adultère, et d'une Vierge qui va enfanter. Donc voyez déjà, la Vierge Marie elle-même, par amour du Seigneur, elle se soumet totalement à lui. Bon, prenons un autre exemple. Dans la parabole du gérant habile, dit parfois aussi malhonnête, le Seigneur Jésus conclut, vous vous souvenez, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Et en fait, c'est Dieu et Mammon, hein, vous savez, le Dieu de l'argent. C'est quoi le verbe ?« Vous ne pouvez pas, d'où le haine ?» Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de l'argent. Vous voyez, il n'y a pas, et ça renforce le choix sans compromis qu'on doit avoir entre Dieu et l'argent. Autrement dit, si l'on ne se fait pas volontairement, amoureusement esclave de Dieu, on deviendra esclave de l'argent, qui est une véritable idole. Il est clair que le Seigneur invite à un choix qui ne tergiverse pas. Bien, on pourrait multiplier, il y a des passages aussi dans saint Paul, etc. Les pères de l'Église vont dans le même sens. Saint Cyrille de Jérusalem, par exemple, que nous fêtions hier, dans une catéchèse baptismale. Si quelqu'un, cependant, est ici l'esclave du péché, que la foi le dispose immédiatement à la régénération libératrice de l'adoption filiale, qu'il dépose le funeste esclavage du péché, acquiert le bienheureux esclavage du Seigneur et soit ainsi jugé digne d'avoir en héritage le royaume des cieux. Saint Cyrille d'Alexandrie, c'est du IVe siècle. Voyez, là, très paradoxalement, la liberté intérieure s'obtient dans l'esclavage volontaire du Seigneur. En un temps où l'esclavage n'était pas encore aboli, la résonance était d'autant plus forte. Bon, il y a aussi saint Augustin, je vous passe. Bon, c'est une petite recherche qui n'est pas exhaustive, mais il y a aussi l'imitation de Jésus-Christ, etc. Revenons au père de Montfort, du coup. Il faut donc choisir appartenir au diable ou appartenir à Jésus-Christ. Mais, comme il le dit lui-même, il y a différentes sortes d'esclavage. Et voilà ce qu'il dit. Il y a trois sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte et un esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière. Parce qu'on a tous été créés par Dieu et vous comme moi, on n'a pas choisi. D'accord ? Donc on est soumis à Dieu de ce point de vue-là. Et on n'a pas choisi ni d'exister, ni la fin qui est la nôtre, et de voir. Les démons et les damnés sont en la seconde, ils sont dans un esclavage de contrainte. Les justes et les saints le sont en les troisièmes, un esclavage de volonté. L'esclavage de volonté, dit saint Louis-Marie, est le plus parfait et le plus glorieux à Dieu, qui regarde le cœur et qui demande le cœur. Et qui s'appelle le Dieu du cœur ou de la volonté amoureuse. Parce que par cet esclavage, on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Vous voyez, ce mot d'esclavage, il peut déplaire, évidemment, parce qu'il a une résonance chez nous difficile. Il est porteur de toute la culpabilité de l'Europe et de toute l'amertume des descendants des esclaves. Et même si l'histoire n'est pas toujours aussi manichéenne que la présentation qui en est si souvent faite, le mot esclavage est chargé de répugnance, surtout depuis que la loi, heureusement, bien sûr, abolit cette inhumaine servitude. Malheureusement, des esclavages modernes nombreux et non moins pervers ne suscitent pas toujours la vive réaction d'injustice que l'on pourrait attendre. Enfin, ça c'est une autre affaire. Dans ce contexte, la spiritualité, voyez, du saint esclavage passe mal. Et il faut dire que pour promouvoir la dévotion du père de Montfort, on a eu tendance à l'édulcorer. Il serait pourtant nuisible à la juste compréhension de cette dévotion d'en évacuer en même temps la signification profonde. Montfort s'en explique d'ailleurs et veut montrer que le don que nous faisons de nous-mêmes à Jésus-Christ par Marie ne peut pas être un don à moitié et avec réserve. Et je vous le cite. Voilà ce qu'il dit. Il y a une totale différence entre un serviteur et un esclave. Un serviteur ne donne pas tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir par autrui ou par soi-même à son maître. Mais l'esclave se donne tout entier, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître sans aucune exception. Le serviteur exige des gages pour les services qu'il rend à son maître. Mais l'esclave n'en peut rien exiger. Quelque assiduité, quelque industrie, quelque force qu'il ait à travailler. 3. Le serviteur peut quitter son maître quand il voudra, ou du moins quand le temps de son service sera expiré. mais l'esclave n'est pas en droit de quitter son maître quand il voudra. 4. Le maître du serviteur n'a sur lui aucun droit de vie et de mort, en sorte que s'il le tuait, comme une de ses bêtes de charge, il commettrait un homicide injuste. Mais le maître de l'esclave a par les lois droit de vie et de mort sur lui, en sorte qu'il peut le vendre à qui il voudra ou le tuer, comme sans comparaison il ferait de son cheval. Enfin, le serviteur n'est que pour un temps au service d'un maître, et l'esclave pour toujours. Ainsi, vous voyez l'idée du père de Montfort. Évidemment, il ne fait pas la promotion de l'esclavage en tant que servitude inhumaine, qui n'a pas de sens. Il s'est opposé, d'ailleurs, à toutes les formes d'esclavage, de pauvreté, tout ce que vous voulez, de son temps, ce qui montre bien voilà, qu'il avait cette compassion véritable. Mais ce don de nous-mêmes au Seigneur suppose de se donner tout entier. Et tout ce qui nous appartient de bien matériel et spirituel, ce don doit se vivre de manière détachée, sans exigence de retour, dans la mesure où Dieu ne nous doit rien. Il est en effet plus parfait de se donner au Seigneur par pur amour, plutôt que dans un intérêt avoué ou non avoué. Ce don nous lie irrémédiablement au Seigneur, non seulement pour la durée de cette vie terrestre, mais pour l'éternité. Tous ces aspects sont propres au lien de dépendance de l'esclave. Et dans le paragraphe suivant, Grignon rappelle la tradition constante qui porte ces notions, je vous ai donné quelques exemples, à travers les siècles. Cependant, évidemment, cet esclavage ne conviendrait aucunement aux chrétiens s'il s'agissait d'une dépendance servile et subie, d'une aliénation totale de la personne et de la volonté. C'est l'offrande volontaire de soi sans réserve, mais surtout par amour, qui rend ce don si beau et fructueux. Et voyez, ce don, normalement, il est intrinsèquement lié aux engagements du baptême. Je dis, dit le père de Montfort, que nous devons être à Jésus-Christ et le servir non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux, qui par un effet d'un grand amour se donnent et se livrent à le servir en qualité d'esclave pour l'honneur seul de lui appartenir. L'exemple ne vient-il pas d'ailleurs du Seigneur Jésus lui-même ? Formam servi a cipiens nullos. Il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave. Et c'est bien le même mot, doulos, la Sainte Vierge. Doulé, doulos, ça répond l'un à l'autre. Le Seigneur lui-même s'est fait esclave, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Se donner à Jésus en qualité d'esclave, c'est finalement prendre ce même chemin que lui, Jésus, a emprunté pour nous rejoindre. Sauf que ce chemin, pour lui, c'est un chemin descendant, tandis que pour nous, c'est un chemin ascendant, puisqu'en nous unissant intimement à lui, Jésus, dans la croix, il nous promet d'entrer dans la gloire avec lui. N'est-ce pas ce qu'ont vécu tous les saints, en commençant par la Vierge Marie elle-même, à l'égard de Jésus? Voyez, chers amis, en fait, il n'invente rien, le père de Montfort. Le mot peut nous déplaire, peu importe. Évacuez le mot. Mais gardez l'idée. Gardez l'idée du don total, sans condition, sans réserve, pour toujours, au Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il enseigne, le père de Montfort. C'est exactement ce qu'enseigne Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila dans l'union de volonté avec Dieu. Tout faire, s'abandonner totalement à Dieu. Et finalement, dans l'Évangile, est-ce que nous n'avons pas cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est ça l'esprit du saint esclavage du père de Montfort. Pas une contrainte servile qui nous abaisserait, qui nous aliénerait. Non, au contraire, un don volontaire de soi, amoureux, le désir de se donner totalement au Seigneur. Voilà, j'ai assez parlé, je voulais souligner ce point, c'est un point particulier, mais qui est un point important central, parce qu'il conditionne tout le reste, il éclaire tout le reste. Après, lisez ce que le Père de Montfort dit sur la croix, lisez ce que le Père de Montfort dit sur la Vierge Marie et sa juste place. Savez-vous quelle est la devise du Père de Montfort? Plein de gens pensent que c'est à Jésus par Marie. Eh bien non, ça c'est celle de Saint Jean-Paul II qui l'a pris de Montfort, c'est vrai. Mais c'est pas celle du Père de Montfort. La devise du Père de Montfort, et vous le comprenez mieux peut-être, j'espère, avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est Dieu seul. Et parfois il signait même Dieu seul est ma tendresse. Ça dit beaucoup sur le personnage, mais peut-être vous pouvez mieux entrer dans ce que signifie cette devise, justement, en ayant un peu découvert peut-être plus sa vie et puis aussi sa doctrine. Voilà, je vous laisse là-dessus, simplement en vous citant le secret de Marie. Âme, image vivante de Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous, et que vous deveniez sainte comme lui dans cette vie, et glorieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée, et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre, ou alors vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pourquoi il vous a créé et vous conserve maintenant. Et pour Saint Louis-Marie, appartenir tout entier à Jésus, pour appartenir tout entier sans réserve à Jésus, il faut faire comme lui, appartenir tout entier et sans réserve à la Vierge Marie. Parce que plus on appartient à Marie, plus on appartient à Jésus, plus on se donne à Marie, plus on se donne à Jésus. Vous dites Marie, elle dit Jésus. Alors, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Peut-être que je n'ai pas insisté sur ce point qui est un peu plus connu du Père de Montfort, mais pour mieux y entrer, je pense que c'était important de vous parler de ce qu'il comprend par le Saint-Esclavage. Alors, approfondissez en lisant le secret de Marie, ou le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Et cela vous aidera, je l'espère, à mieux entrer dans cette spiritualité du Père de Montfort et à en vivre surtout pour mieux vivre des grâces de votre baptême. Ainsi soit-il.